Alors, ceci que le message, là, dans sa globalité, a comme titre « Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés ». Et puis, c'est sûr que pour comprendre vraiment la profondeur de ce qui est mentionné là, alors c'est sûr qu'il faut prendre le temps de tout considérer, aller jusque-là, qu'est-ce qu'on veut dire par cela, pour qu'on puisse vraiment le saisir. Alors, on avait vu comme première partie le cheminement de l'apôtre Paul. On sait que Paul était pharisien, puis était très zélé, et selon la loi, tous ceux qui enseignaient autrement ou qui incitaient les frères à suivre un autre Dieu, alors étaient passibles de mort, d'emprisonnement ou quoi que ce soit. On voyait ça dans l'Ancien Testament. Alors, Paul, ce sens-là, est très zélé. Était parti à Damas avec des lettres du souverain sacrificateur pour faire prisonnier tous les chrétiens qui prêchaient Jésus, qui, selon lui, n'était pas prêché l'Éternel. Alors, sur le chemin de Damas, bien entendu, c'est là que Paul a rencontré Jésus et que là, sa façon de voir a complètement changé. Mais par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que pendant tout ce processus qu'elle est dans les églises, pas dans les églises, mais qu'elle est là pour faire prisonnier les chrétiens ici et là de différentes localités, avant d'arriver à Damas, c'est sûr que je suppose que les chrétiens devaient le témoigner, même malgré sa férocité à vouloir les emprisonner. Je suis certain qu'il a été témoigné à plusieurs reprises, et qui a fait en sorte qu'il y a un processus qui a commencé tranquillement par l'œuvre du Saint-Esprit et qui l'a emmené graduellement à réaliser que le bon pharisien qui était auparavant était aussi pourri que n'importe qui. Mais malgré tout cela, on dirait que plus qu'il découvrait ça, plus sa rage contre les chrétiens augmentait. Alors qu'il faisait que là, il était prêt à aller même à l'extérieur pour les faire prisonniers. Et puis quand il est venu à la connaissance du Seigneur Jésus, c'est là que tout est venu clair et qu'il est devenu maintenant l'homme de Dieu qu'on connaît dans les Écritures. Alors, ce qu'on avait parlé aussi, c'était le problème de la loi. C'est sûr que la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte, mais par contre, avec Adam et Ève, on a hérité d'un vieil homme, si on pourrait dire, qui a fait en sorte que, quand on veut observer la loi, bien souvent, ce vieil homme, ou cet état de péché, ou de mal, ou de résistance contre l'autorité de Dieu se manifeste automatiquement. Alors, ce qui est bon, ce qui devrait normalement me rendre bon, c'est le contraire qui se passe. Alors, c'est ça que les gens qui veulent s'acharner après à vouloir observer des lois, se justifier en observant un paquet de lois, malheureusement, ça les aidera pas plus, parce que ça va juste les rempirer. Ce que ça va se produire chez eux, c'est l'orgueil, ils sont au-dessus des autres, la haine, parce que les autres font pas ce que je fais, ils sont pas à ma hauteur, alors si, vu qu'ils sont pas à ma hauteur, je les rejette, je les prends en haine. Et le jugement, ben, ils sont pas bons, c'est pas des bons chrétiens ou c'est pas des bonnes personnes. Tandis que la grâce, ce que ça produit par contre, c'est l'humilité, on devient humble, on réalise notre état, qu'on n'est pas mieux que personne, mais par la grâce du Seigneur Jésus, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un changement qui se produit et qui fait qu'on devient meilleur que ce qu'on était auparavant. Alors, on marche humblement, puis on est conscient que tout le monde a un cheminement dans leur propre vie et qui fait en sorte qu'on est là pour les accompagner, puis les aider et leur permettre aux autres aussi de grandir. C'est pour ça qu'on est là les uns les autres ensemble. Et bien entendu, ce que ça produit la grâce, c'est l'amour. L'amour répandu par le Saint-Esprit en nous qui fait en sorte qu'on est capable de s'aimer les uns les autres et de vouloir prendre soin les uns des autres. Et on est prêt, bien entendu, à pardonner les autres qui nous font du mal. Comme nous-mêmes quand on fait du mal aux autres, qui nous pardonnent aussi. Alors, c'était ça qu'on avait vu grosso modo. J'ai fait un brossage rapide, là. Mais pour ce matin, pour la seconde partie de ce message, comme Luc a si bien mentionné, malheureusement, excusez-moi, mais je pense qu'on a pour quelques messages encore. Mais au moins, ce qu'on va voir ce matin, c'est quand même important. Alors, sur ça, je vais vous demander votre attention et surtout que le Seigneur vienne parler à notre cœur. Alors, ce qu'on va parler ce matin dans la partie « Marcher selon l'Esprit et par l'Esprit », la première chose qu'on va parler ce matin, ça prend une réelle conversion. C'est quoi une réelle conversion? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourtant, il parle à des chrétiens. Alors, on va essayer de voir ça ce matin, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Alors, on va prier pour que le Seigneur puisse ouvrir notre esprit et notre cœur et nous permettre d'être bénis par sa parole. Alors, Père, on est ici devant toi. On sait, Seigneur, que tu nous as aimés, que tu nous aimes toujours, et que c'est grâce à ton amour que tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus nous permettre à chacun de nous d'être pardonnés, d'être justifiés, et de nous permettre d'être libérés enfin et de pouvoir marcher avec toi, d'avoir un sens à notre vie, de nous permettre de pouvoir ensemble, Seigneur, te louer et te servir. Mais ce que nous avons besoin ce matin, c'est que le point de ce message qui va être apporté, que ce soit le tien, Seigneur. On veut pas que ce soit le message d'un homme, on veut pas, Seigneur, que le contenu soit le contenu d'un homme, mais on veut vraiment que ce soit toi, par ton Esprit Saint, au travers de la personne qui apporte ce message ce matin, que tu viennes nous parler. Moi, Seigneur, comme tous mes frères et mes sœurs qui sont ici, on a besoin d'être enseignés et je te demande cette grâce, Seigneur, pour chacun de nous. Toi, viens nous parler, viens nous enseigner ce matin. Amen. Alors, j'ai remarqué au travers des années, à force de lire, d'étudier la parole, puis avec les gens, que des fois, le salut est pas bien compris. Et c'est pour ça que des fois, on regarde certains chrétiens, on les regarde aller, et puis ils semblent avoir pas vraiment compris par la manière dont ils vivent leur vie chrétienne. En d'autres mots, quand tu sautes ici le matin, tout est bien bon. On peut pas savoir qui est le plus saint ou celui qui est le plus endommagé, on ne sait pas. Mais quand on saute ici, par exemple, durant la semaine, là, c'est là qu'on le sait. Puis bien souvent, c'est le pasteur, puis c'est lui qui a affaire avec les gens durant la semaine. Alors, qui fait que la réalité est-ce que vraiment on a compris c'était quoi ce beau salut qui nous est apporté en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça comprend exactement? Alors, c'est sûr, vu qu'on n'a pas trop de temps ce matin, je vais quand même apporter ça plus clairement, c'est sûr, mais je peux pas rentrer très en profondeur, mais quand même, ça va être suffisant. Alors, ce que je veux apporter comme première chose, la repentance. La repentance. C'est quoi ça, la repentance? Ça vient d'un mot grec, métanoïa. Ou métanoïo quand c'est le verbe. OK? Alors, méta veut dire avec, après. Puis noéo, ben, veut dire la pensée, après avoir pensé, après avoir réfléchi. Alors, ce qui se passe, la repentance, c'est que lorsqu'on vient à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, au salut en Jésus-Christ, ce que ça produit par le Saint-Esprit et par la parole, une réflexion. On réfléchit. Ce que la parole dit sur nous auparavant, avant de venir à Jésus-Christ. On était perdus. On vivait dans le monde. On vivait selon nos valeurs. On était notre propre Dieu. On était des égoïstes, des orgueilleux. On pensait qu'à nous. Puis on était perdus. On était le propre chef, le propre seigneur de nos vies. Mais la repentance, c'est qu'après avoir réfléchi à tout cela, la parole nous dit que c'est Dieu qui doit être le Seigneur de nos vies. Pas nous. On a été créés pour Dieu, on n'a pas été créés pour nous-mêmes. Alors, lorsqu'on prend conscience de ça, la parole nous dit que si on demeure dans cet état d'être son propre Dieu, on est perdu. On ne sera pas avec Dieu pour l'éternité, puis il y a un lieu de tourment qui nous attend. Par contre, si on décide maintenant de dire, après avoir tout réfléchi à cela par le Saint-Esprit, oui, Dieu, je veux maintenant que c'est toi qui deviens le Seigneur de ma vie. Oui, je veux que c'est toi qui dirige ma vie. Là, ça devient toute une autre chose. C'est là que là, on commence à comprendre le sens. Même pour vous montrer que combien ça avait une importance, même pour l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, par exemple, c'est un petit livre, une petite lettre de 3 chapitres. À 4 endroits, j'ai pris le temps de regarder, à 4 endroits dans 2 Pierre, il mentionne dans cet ordre-là, j'ai vérifié dans l'original aussi pour être certain, je pourrais vous donner un cours sur le grec, mais je veux pas faire ça le matin parce qu'on va perdre du temps pour rien, mais je veux juste vous dire que dans l'ordre que c'est mentionné, il n'est pas accidentel. Parce que dans le grec, on peut inverser les mots, c'est juste par la terminaison puis la forme qu'on reconnaît à quelle place que les mots vont. Mais ici, intentionnellement, les mots ont été placés de cette façon-là. Alors, c'était placé à quatre fois « Seigneur et Sauveur ». Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Il n'a pas dit Sauveur et Seigneur. Il y en a qui disent, ben regarde, il vient me sauver, puis après ça, il va venir le Seigneur en allant graduellement. C'est pas ça du tout. Croyez pas ça. Si en partant, je n'accepte pas d'abandonner ma vie et de la donner au Père, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, par le moyen de Jésus-Christ, si j'accepte pas que Dieu devienne le Seigneur de ma vie, le restant, ça vaut rien. Puis votre foi chrétienne, elle sera pas forte. Parce qu'en réalité, vous allez continuer à être le propre directeur de votre propre vie. Ça, c'est important de bien le saisir. Seigneur en tout. Le Kyrios. Seigneur de nos vies. Mais une autre chose qui suit. Une fois qu'on a fait cela, là, c'est là qu'on invoque le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je sais que j'ai fait du mal pendant toute ma vie. Je sais que j'ai péché à différents endroits dans ma vie. Et je sais même encore aujourd'hui que je risque de pécher encore ici et là, puis même dans le futur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je te demande, je t'invoque, je veux accepter ton sacrifice à la croix pour mes péchés. J'accepte que tu aies payé le prix de mes péchés, de mes dettes. Je l'accepte, ça. Je le veux, ça, pour ma vie. Seigneur Jésus-Christ, rentre dans ma vie comme étant le sauveur de ma vie et automatiquement avant le Seigneur de ma vie. Et à ce moment-là, là, c'est là qu'on comprend le vrai sens de ce salut en Jésus-Christ. Je vais vous montrer juste quelques versets, juste pour appuyer ce que je vous ai dit là. Dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 46-47. Alors, dans Luc 24, les versets 46 et 47. Qui nous dit ici? Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. C'est Jésus qui parle ici à ses disciples. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés, même ici et dans cet ordre-là. Vous allez aller dans les actes, ils font la même chose. Partout, c'est comme ça c'est présenté. Repentance et pardon des péchés. Et jamais de dire juste pardon des péchés. Repentance, pardon des péchés. C'est inséparable. Et si tu te fais normal, et la repentance qui se fait là va se continuer tout au long de notre cheminement spirituel, dans notre vie chrétienne, jusqu'à notre mort. Alors, lorsqu'on pêche occasionnellement dans notre vie chrétienne, on retourne vers Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi de t'avoir attristé. Je sais que c'est déjà payé, pardonné tout ça. Je sais que tu l'as fait, mais je te demande pardon de t'avoir attristé, Seigneur. Puis aide-moi maintenant à surmonter, à ne pas retomber là-dedans. Aide-moi à trouver la victoire dans ce péché dans lequel avec lequel j'arrache, puis aide-moi à marcher victorieux. C'est comme ça. Mais ça suit tout au long de notre vie. Je vais regarder avec vous quelques versets dans Romains 10, versets 9 et 10. Je pense que c'est un point important aussi qu'il faut bien saisir. Romains 10, versets 9 et 10. Dites-vous bien que ce matin, je mets à rude épreuve la personne qui s'occupe de présenter les versets. Hein? Moi, j'ai dit, tu y vas comme tu me suis. Qu'allez-vous, c'est moi. Les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, en d'autres mots, si tu dis la même chose que lui par rapport à ton état, puis par rapport à ce qu'il nous offre, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, en voulant dire qu'il est vraiment là, qu'il est la preuve comme quoi, qu'il est mort pour tes péchés, puis il prend ta défense. Il est ton souverain sacrificateur et la victime expiatoire pour tes péchés. C'est pour ça. Il est ressuscité, puis là, il est là pour ça. Alors, tu seras sauvé. Regardez bien la suite. Car c'est en croyant du cœur. Oh! En croyant de la tête. C'est sûr qu'il y a une partie. faut prendre le temps de réfléchir à tout cela, puis une fois qu'on l'a fait, mais faut que ça descende au cœur. Faut pas que ça reste là. Si ça reste à ce niveau-là, vous connaissez pas encore le Seigneur. Même dans Jacques chapitre 2, le verset 19, il dit que même Satan lui-même, il sait que Dieu existe tout ça, puis pourtant il tremble devant lui. Pourquoi? Parce que ça n'a pas descendu dans son cœur. Ça a resté là. Et c'est ça qu'il faut bien saisir ce matin. Il faut que ça descende au cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur c'est quoi le cœur exactement. Parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on emploie dans les Écritures, puis c'est bon de les comprendre pour être capable de bien saisir la chose. Alors, pour ce point-là, c'était une chose importante. Puis Marc, chapitre 8, le verset 34, le dit. Jésus lui-même nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » OK? Il dit pas, « Ben, acceptez-moi comme le sauveur de vos vies, comme quoi je paye pour vous autres le prix de votre rançon par mon sang à la croix. » C'est pas ça qu'il leur a dit. Il leur a dit la première chose, commencez à vous repentir. Si vous voulez vous repentir, regardez ce que c'est que se repentir. Se repentir, c'est de renoncer à nous-mêmes, c'est de chercher notre propre croix, puis de le suivre. Et après cela, lorsque je serai mort à la croix et ressuscité, là, à ce moment-là, je vais couvrir tous vos péchés, passés, présents et futurs. C'est important de saisir ces choses-là. Une deuxième chose qui se produit par la suite, parce que ça s'arrête pas là. Autrement, on a encore de la misère dans notre vie chrétienne, combien qu'on arracherait encore? La régénération du Saint-Esprit. Ce qui se passe, lorsque nous avons fait cette confession, lorsque nous avons demandé à Jésus-Christ de devenir le Seigneur, le Sauveur de nos vies, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devenir comme le Seigneur de nos vies, mais Jésus-Christ spécifiquement notre Sauveur, lorsqu'il vienne en nous et qu'on y a vraiment cru, et ça a descendu au niveau du cœur, regardez ce qui suit. Dans Titre, chapitre 3, les versets 4 à 7. Alors, dans Titre, chapitre 3, et les versets 4 à 7. Je vais vous lire. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par sa miséricorde, selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » En d'autres mots, le Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, il régénère notre esprit, notre cœur. Il est régénère. Ça veut dire que cette vie de Dieu qui était perdue au Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, bien, maintenant Dieu nous la redonne par le moyen du Saint-Esprit. En d'autres mots, là, notre salut, oui, Jésus-Christ a fait sa part, Dieu a fait sa part, mais le Saint-Esprit aussi a une grande part à faire. Il faut qu'il nous régénère maintenant. Ça veut dire régénérer. Quand on parle de cellules qui sont mortes, puis on dit qu'ils ont été régénérées, ça veut dire qu'on les a remis vivantes. C'est exactement ce qui se passe. Le Saint-Esprit vient redonner la vie en nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit est si important, puis qu'il faut en parler. Il nous régénère. Il nous transforme à l'image de Jésus de gloire en gloire. Le Saint-Esprit, il est là pour renouveler notre intelligence et renouveler notre cœur. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'autres choses à parler, c'est pour ça que je dis, il va falloir remettre ça pour plus tard. Regardez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 4. 2 Pierre. Chapitre 1, les versets 3 et 4. Il nous dit ici, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nature divine. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce qui est venu semer en nous, il est venu nous apporter la nature divine par le moyen de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est pas n'importe qui, là. C'est quelqu'un de très important. Troisième personne de Dieu. Ayant un rôle, cet autre consolateur. C'est celui qui nous redonne une vraie vie en abondance avec Jésus-Christ, avec le Père et avec lui-même. Et c'est ça qui est merveilleux à savoir. Et puis, dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 13 et 14. Éphésiens, chapitre 1, et les versets 13 et 14. Il nous dit ici, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Scellés, un étampe. On était étampés comme quoi on appartient à Dieu, comme quoi c'est authentique, c'est véridique. On était étampés. On ne peut plus maintenant appartenir à un autre. On ne peut plus maintenant retourner en arrière. On ne peut plus. Ceux qui retournent en arrière, c'est ceux qui n'ont pas compris. Ça a resté au niveau de la tête, mais ça n'a pas descendu au niveau du cœur. Puis quand je parle du cœur, je parle pas des émotions. Ça là, je vais vous l'expliquer, cette partie-là. C'est important de faire la différence entre la pensée, l'âme et toutes ces choses-là. On va en parler un petit peu. Alors, c'est ça que je voulais souligner pour la régénération du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Parce que là, le titre de ce matin, ce qu'on a dit, dans marcher selon l'Esprit et par l'Esprit, était, ça prend une réelle conversion. Alors, pour une réelle conversion, ça prend la repentance et le pardon des péchés, ça prend la régénération du Saint-Esprit, puis ça prend quoi encore? Ben, c'est ce qu'on va regarder aussi. Une autre chose. Les personnes qui ont vraiment expérimenté repentance et pardon des péchés et régénération du Saint-Esprit, maintenant, ces personnes-là doivent s'affectionner et s'entretenir des choses d'en haut. Ben, c'est sûr. Si on ne s'entretient pas des choses d'en haut, si on ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, ben, on était créé pour s'affectionner à quelque chose. On peut pas être ben frette, là, sur une glace, sur une chaise, puis attendre que le temps passe. C'est pas ça. On est tous, au-dedans de nous, à quelque part, besoin d'avoir une passion dans quelque chose. D'avoir un petit Dieu à quelque part, ou le grand Dieu, tout dépendant. Et ça, c'est important, cette partie-là. Pas parce que Dieu veut nous achaler, ou pas parce que Dieu dit, regarde, non. Parce que Dieu dit, je vous ai créé comme ça, vous avez besoin de moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, et sans moi, vous ne pouvez pas être heureux, et sans moi, vous ne pouvez pas être libre, et sans moi, vous ne pouvez pas vivre dans une abondance spirituelle. Vous avez besoin de moi. Et c'est que moi, il faut que je prenne toute la place. Mais pour prendre toute la place, vu que je suis pas là physiquement parlant, alors c'est au travers de ma parole et avec mon Saint-Esprit que ça va se faire. Et au travers de l'Église et tous les dons qui ont été donnés à l'Église. Et ça, c'est un point très important. On voit ça dans Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Pour vous dire que c'est pas moi qui les invente, hein. Moi, je vous dis seulement ce que les Écritures disent, hein. Okay. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dans d'autres versions, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cherchez les choses d'en haut. Regardez une autre façon de s'entretenir dans Éphésiens, chapitre 5, et les versets 18 et 19. Éphésiens, chapitre 5, et les versets 18 et 19. Alors, il nous dit ici, l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit.
Ah oui?
Oui, on peut être rempli de l'Esprit.
Mais comment?
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Hey, quand on a une belle louange comme ça ce matin, là, entre vous puis moi, hein, est-ce que vraiment on n'est pas rempli de joie, rempli d'être avec le Seigneur, rempli d'être avec les frères, rempli de pouvoir dire au Seigneur notre amour et comment qu'on le vit dans nos vies? On est rempli. Pourquoi? Parce qu'on s'entretient de ces choses-là. C'est nécessaire. Mais une autre chose aussi qui est importante, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, et les versets 16 et 17. Qui nous dit ici? Toute écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que ça, si c'est pas là, on sera pas propre à toute bonne œuvre. Puis on sera pas des hommes et des femmes de Dieu, croyez-le moi. Très, très, très important. Et on arrive à ce dernier point que j'ai voulu rajouter à cela, qui est très important. On pourrait dire le point de connexion pour le prochain message. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, dites-vous bien que ça va demander des efforts, mais avant tout, une décision. On a toujours un choix. J'ai le choix de faire ce que l'Esprit m'enseigne, ce que la parole m'enseigne, comme j'ai le choix aussi de faire ce que moi j'ai le goût de faire. Des fois, il y a des mauvaises émissions de télévision, j'ai le choix de les regarder, ou j'ai le choix d'écouter ce que Saint-Esprit me dit, regarde, ou juste faire ça, pourquoi tu n'iras pas prier à la place? Ou pourquoi tu t'occuperas pas à autre chose? Il y a bien d'autres choses importantes pour moi, sans perdre ton temps avec ça. Parce que ce que ça va faire dans ton esprit, ça va juste rendre ton esprit encore plus rebelle à moi. Ça va plus te troubler. Ça va plus exciter tes sens pour rien. Ça va plus t'amener des problèmes. Pourquoi à la place, mets ça de côté? Puis pourquoi tu liras pas ta Bible? Pourquoi tu prierais pas? Pourquoi tu parlerais pas avec ton épouse, ton conjoint, avec tes enfants? Pourquoi tu irais pas parler avec ton voisin? Parle de moi! Comprenez-vous? Marcher selon l'Esprit demande une décision. Alors, je veux maintenant arriver, tout en restant dans ce petit point-là, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. L'être humain, comment ça s'opère exactement? Alors, ici, j'ai fait une petite recherche pour être certain qu'on amène les bonnes choses. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, nous dit que le Dieu de toute paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps. Paul nous amène trois aspects de l'être humain. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas juste ceux-là, mais il en souligne quand même trois. Alors moi, à partir de là, j'ai rafistolé deux petites affaires avec, puis on va essayer de les comprendre ensemble. Parce que le Saint-Esprit va travailler au travers de ça. Il faut savoir, nous, comment les utiliser, ces choses-là. Alors, la première chose que j'ai soulignée, l'esprit, notre esprit, notre propre intelligence, notre esprit. Alors, c'est quoi ça exactement? Qu'est-ce que ça comporte? Alors, ça comporte notre intelligence. Ça comporte nos connaissances, notre savoir. Ça comporte le discernement et ça comporte tout ce qui est par rapport à l'analyse et réflexion et tout cela. On voit ça dans le Proverbe 2:6, que c'est Dieu qui donne la sagesse et la connaissance. Et dans Romains 12, le verset 2, ben c'est sûr que là, il nous mentionne que on est exhorté à renouveler notre intelligence. OK? Mais il y a une autre chose que j'ai rattachée à l'esprit, que je voulais mentionner un petit peu tout à l'heure, c'est le cœur. Parce qu'ici, vous avez deux sortes d'intelligence, on pourrait dire. Vous avez l'intelligence intellectuelle, qu'on pourrait dire l'esprit. Mais vous avez aussi l'intelligence émotionnelle, qu'on appellerait le cœur. OK? Et puis, quand on lit dans Ézéchiel 36, les versets 26 et 27, ou dans Hébreux, chapitre 8, les versets 7 à 13, ou chapitre 10, 14 à 18, je vous les donne demain, vous n'irez pas voir, mais juste pour vous dire qui ils sont. Juste pour vous dire que je vous invente rien. OK? Alors, ce qui se passe, c'est que les deux sont associés ensemble. Hein? Il dit, je vais mettre mes paroles dans votre esprit, je vais les écrire dans votre cœur. Et puis, des fois, c'est vice-versa. Je vais mettre mes paroles dans votre cœur, je vais les écrire dans votre esprit. Alors, en d'autres mots, ce que le fait, où ce que le Saint-Esprit vient s'installer, c'est vraiment au niveau de notre esprit, intelligence et tout cela, mais aussi au niveau de notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le centre d'intérêt de nos valeurs, de nos passions. OK? Comme Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » OK? Et puis aussi le cœur, pourquoi? Oublions pas que le cœur, c'est l'organe, parce que c'est toujours une illustration que Jésus prend, bien entendu, que le cœur, c'est l'organe qui fait circuler tout notre sang. OK? Et dans Lévitique 17, il nous est mentionné que la vie est dans le sang. OK? Alors que quand le sang circule, la vie circule, parce que la vie est dans le sang. Vous comprenez? Et c'est le cœur qui l'alimente. Alors, c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Le cœur, lorsqu'il est rempli des choses du Seigneur, alors ce cœur-là va faire circuler la vie de Jésus en nous au travers de ce sang, le sang de Jésus. OK? Cette vie va circuler à grandeur. Mais pour cela, faut avoir le bon centre d'intérêt de nos valeurs, de nos passions, qui sont Jésus-Christ, son Père, le Saint-Esprit et toute la parole de Dieu, surtout dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est très, très essentiel de bien saisir cela. Alors, l'esprit et le cœur, c'est là principalement que le Saint-Esprit vient s'installer et vient régénérer. Mais ça s'arrête pas là. Il parle de l'âme. Hein? Il a dit que tout votre être, l'esprit, l'âme, alors, dans l'âme, j'y associe aussi les pensées, parce que ils vont pas mal ensemble. OK? Alors, je vais commencer par les pensées, parce qu'il y a un ordre quand même. Je vais avec les pensées. Les pensées, c'est la partie où ce qu'il y a des réflexions. On pense à des affaires. OK? Et aussi, il y a des désirs, des attentes. Et aussi, où ce qu'il y a des volontés, ce qu'on veut faire. OK? Ça se trouve être dans nos pensées. Mais le problème qui se passe, c'est que si nos pensées ne sont pas nourries par notre esprit et notre cœur qui est généré par le Saint-Esprit, alors il va sortir des mauvaises pensées, forcément. Et on pourrait dire, dans les pensées, il y a deux niveaux de pensées. Vous avez les pensées conscientes, puis vous avez les pensées inconscientes. Alors, les consciences, c'est celles qu'on a, qu'on comprend, qu'on fait, c'est qu'on réfléchit sur le moment et les choix qu'on fait avec. Mais inconsciente aussi, c'est toutes les blessures du passé, toutes les maltraitances, toutes les mauvaises choses, mais qui sont enfouies dans notre inconscient et qu'on n'a pas réglées. Ce qui se passe, c'est que vous allez vous trouver à un moment donné dans une situation où ce que, mettons, vous avez été blessé dans le passé par des gens méchants, par des paroles et puis des gestes à votre égard et tout ça, ça vous a profondément blessé, mais vous avez jamais réglé ce problème-là. Et que vous arrivez un jour en face d'un gars ou d'une femme qui est de cette façon-là puis qui vient vous barber puis qui vient vous provoquer, qu'est-ce qui va ressortir d'après vous? L'amour de Jésus? Je pense pas. C'est ça qui va ressortir. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été réglé. Tout comme les attentes, c'est la même chose. Si vous attendez, par exemple, qu'une telle personne va se comporter de telle manière, et puis vous attendez que tous les gens vont se comporter de telle manière, les gens qui sont au Seigneur, par exemple, ou même sur les chrétiens, ça peut être les chrétiens vont se comporter de telle manière, puis quand les choses n'arrivent pas, on réagit mal. Pourquoi? Parce que notre attente était que les gens, il faut qu'ils agissent de cette manière-là. Vous comprenez? La guerre là qu'on a amenée contre Satan, contre le monde, contre la chair, se fait à ce niveau-là. C'est au niveau de nos pensées, ce qu'on pense. J'ai déjà entendu une conférencière qui disait que elle, quand elle était jeune, elle a vécu des choses difficiles. Et puis qui fait en sorte que en étant plus vieille et plus mature dans le Seigneur, lorsqu'elle rencontrait des gens qui faisaient penser vraiment aux personnes qui ont fait subir les choses du passé, alors, puis qui la provoquaient, c'est sûr que, sur le coup, elle aurait eu le goût de réagir, puis ça, on l'a fait malheureusement. Mais par contre, elle s'est trouvé un petit truc pour être capable de surmonter ça. C'est qu'elle s'est dit qu'à toute fois que quelqu'un va me provoquer de telle ou telle manière, Je vais les bénir. Je vais prier pour eux autres. Je vais leur faire du bien. Je vais décider de les aimer. Alors, quand ça arrive, je suis déjà préparé à remanger le coup. Si le coup arrive, moi, je suis déjà prêt à y faire face. Comprenez-vous l'idée? Tout se passe là. C'est important qu'on s'entretienne dans notre tête là, des choses de Dieu, puis des moyens de surmonter nos faiblesses, à surmonter là où ce que on n'est pas trop fort. C'est sûr que peut-être sur le coup on manque, mais Satan, lui, voulait retirer sa terre. C'est pas ce que Dieu dit. Tu tombes à temps, mais regarde, j'ai une leçon à t'apprendre, parce que tu vas être encore plus fort quand tu vas te relever. Moi, je vais te relever, puis tu vas être encore plus fort, parce que je vais t'enseigner quelque chose que tu savais pas avec, qui t'a fait tomber dedans. Et c'est ça qu'on a. Le Saint-Esprit, il est notre enseignant. Il est là, il nous enseigne. Il nous montre la voie. Il nous rappelle qu'on est un enfant de Dieu. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit fait, mais que je peux pas en parler ce matin. Je veux juste le souligner. Et la dernière chose ici, dans cette illustration ici, le corps. C'est quoi le corps? Ben, c'est sûr que le corps, dans son ensemble, c'est tout l'être irrégénéré, c'est toute la personne, le vieil homme qu'on était, c'est toute notre être. Mais on va dire les appétits du corps, par exemple. Hein? Il y a le goût de manger, il y a le goût de boire, il y a le goût d'avoir des relations sexuelles, il y a le goût de toutes sortes de choses. Mais en étant un vieil homme corrompu, ben là, bien souvent, c'est tout tordu ici et là, et c'est vraiment livré au mal. Puis aussi, bien entendu, il y a les habitudes de vie de notre vieille nature. Avant de venir au Seigneur. Comment qu'on vivait avant? Puis ça, c'est, comme je dis, il y a un inconscient, puis c'est tout ramassé là, puis là, maintenant, c'est tout de vivre avec ça. Bien souvent, des fois, ça ressort. Mais c'est toujours une victoire à la fois, par le Saint-Esprit. Toujours une victoire à la fois. Essayez pas d'avoir toutes les victoires dans votre vie, vous l'aurez pas. Puis vous allez être extrêmement découragé et déprimé. Une victoire à la fois. Un combat à la fois. Puis on s'en va. Mais la victoire finale est déjà acquise à Jésus-Christ. Notre position, elle est là. On est déjà gagnant. On est déjà vainqueur par Jésus-Christ, par celui qui nous a aimés. On est déjà des vainqueurs. Mais par contre, on est ici sur cette terre pour apprendre à connaître Dieu davantage, puis davantage de pouvoir contribuer comme ambassadeur de Christ, comme si bien mentionné, pour justement répandre cette bonne nouvelle puis aider les gens qui en arrachent au lieu de les condamner puis de dire regarde hey, non moi j'étais là je veux l'aider moi aussi je veux être là moi aussi pour aider les autres moi aussi je veux faire ma part puis moi aussi je veux servir Dieu selon les dons et les capacités qu'il me donnera puis je voulais vous lire juste un texte par rapport à ça c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 6 les versets 15 à 20. C'est pas les versets qui manquent, mais j'en ai skippé beaucoup parce que ça serait trop long de tout lire ça, là. Mais j'ai juste pris le temps de vous le mentionner un petit peu. Dans 1 Corinthiens 6, les versets 15 à 20. Ne saviez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne saviez-vous pas que celui qui s'attaque à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire ici, le corps, là, qui était dans cet état dont je vous l'ai décrit, là, quelques instants, ben, c'est plus comme ça. Si on laisse couler en nous le Saint-Esprit, dans notre esprit, notre cœur, nos pensées, nos âmes, tout va être affecté et le corps va être un moyen de transport et de communication et d'action. Alors, c'est pour ça que cette partie-là est essentielle. Et maintenant, je veux juste terminer par ces trois choses-là. Parce qu'ils sont importants, je peux pas les laisser passer. On veut dire marcher selon l'esprit. Bon, on va regarder aussi qu'est-ce qu'il y en est dans Galates, chapitre 5. Alors, c'est sûr que quand je parle marcher selon l'esprit, tout le monde sait que c'est là qu'on a affaire. Galates 5, les versets 16 et 17. Alors, il dit ici, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais regardez ici. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, etc. Vous avez toute la liste ici. Mais regardez par contre, lorsqu'on marche selon l'esprit, ce que ça produit. Galates 5, 22. Lorsqu'on a pris la décision, regardez le fruit que ça produit. L'amour! Enfin, je suis capable d'aimer les gens que j'aimais pas avant. L'amour! La joie! Wow! Je suis heureux! Même si ça va tout mal, c'est pas grave. Je suis heureux, j'ai la joie. La patience! Ben, la paix avant, hein? C'est important, la paix. On veut pas être tourmenté par toutes sortes de choses ou des choses à se reprocher, hein? La paix. La patience! La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est la plus difficile. Mais lorsqu'on marche avec l'esprit et qu'on comprend comment ça fonctionne, graduellement, le Saint-Esprit va nous amener de victoire en victoire. Mais la grande victoire, elle est déjà gagnée. Par Jésus-Christ, la grande victoire est déjà gagnée. Alors, pour arriver à cela, en tout cas, pour moi, personnellement, ce que je fais, je me le rappelle à tous les jours, je me le cite par cœur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienfaisance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Faut que tu te le rendes dans l'esprit. Pour que le Saint-Esprit, à un moment donné, oups, fait une action à l'intérieur de moi. Faut que je prenne conscience de ces choses-là. Une autre chose. Il y en a tout en tout. La deuxième, Éphésiens 4. Et les versets 29 et 30, qui nous dit ici, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, lorsqu'on parle mal des uns des autres, lorsqu'on dit des mauvaises choses ici et là, on attriste le Saint-Esprit qui est en nous, lui qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. C'est une chose à travailler, à s'apercevoir. Quand à un moment donné, ça veut sortir, oups! On se surveille. Fais attention. Puis c'est bon de s'analyser, bon, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je pense mal demain? D'où vient mon malaise qui fait que j'ai le goût de parler mal de l'un ou de dire des choses mauvaises? Prends le temps de, Seigneur, montre-le-moi. Seigneur, cet esprit, éclaire-moi et aide-moi, Seigneur, à corriger le problème et rends-moi victorieux. Par le sang de Jésus. Et une dernière chose ici, dans Philippiens, alors c'est le livre suivant, Philippiens 4 et le verset 8. C'est une autre chose qui est important de se le rappeler. Philippiens 4, verset 8. Verset 9 pour ceux qui veulent le regarder plus tard, mais c'est surtout le 8 qui attire mon attention. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de mes... Ou ce que fait la guerre spirituelle? Faut surveiller nos pensées puis voir d'où ça provient, tout ce mal qui arrive à nos pensées. Est-ce que c'est le diable qui vient m'infiltrer des mauvaises pensées? Est-ce vraiment le monde avec ses attraits? Est-ce vraiment machin, mes désirs qui circulent en moi? Faut surveiller ces choses-là. Alors, j'inviterai les musiciens à revenir ici en avant. Alors, ce qui est important de saisir pour chacun de nous ce matin, c'est que ce qu'on a parlé ce matin, c'est pas un message pour des super spirituels puis des surhommes. Mais ce qui est mentionné ici ce matin, même dans le temps des apôtres et des disciples qui ont suivi dans cette époque-là, même tous ceux qui avaient les dons de l'esprit, toutes les dons spirituels, qu'on pourrait dire, de l'esprit. Malgré tout, ces gens-là aussi avaient une vie comme nous, puis avaient des combats comme nous, puis avaient à surmonter des choses comme nous. Mais par contre, en obéissant à ce que la parole dit, et en voulant être des hommes et des femmes de Dieu victorieux dans leur vie, parce que on aime le Seigneur, puis on veut lui faire plaisir en ayant une bonne conduite. Il nous aime quand même lorsque nous péchons. Il nous aime quand même si on y arrive pas toujours. Ça, l'amour est inconditionnel de la part du Seigneur. Cet amour nous a été déversé même avant même que Jésus-Christ vienne. Son amour était déjà là. Fait qu'imaginez encore plus que Jésus-Christ est mort et ressuscité, à combien plus forte raison que son amour nous est encore déversé. Mais ce qui est, je crois, essentiel pour nous saisir, c'est que il n'y en a pas d'hommes et de femmes super spirituels, mais il peut y avoir des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Et si on le veut, on peut l'être, on peut le devenir. Il s'agit seulement de le vouloir, de le demander à Dieu et de prendre les moyens que ce matin, qui m'ont été donnés de vous apporter, de s'entretenir de ces choses, s'entretenir de la parole, vouloir être avec les chrétiens, vouloir prier, vouloir se retrouver dans les réunions, vouloir être ensemble pour être capable de goûter. Mais si on vient ici juste par devoir, que ça va être long et plate. Tu viens dans une réunion de prière, là, t'es là juste parce que tu veux juste bien paraître par ta présence, ou tu sais, tu veux juste passer pour un super spirituel, ça donne pas grand-chose. Mais si en partant, tu dis, Seigneur, moi je veux faire ma part, aide-moi, Seigneur, à me joindre avec tout le monde pour prier. Moi aussi, je veux prier, Seigneur. Mets-moi des choses à prier dans mon cœur. Je veux prier avec mes frères et mes sœurs. Je veux qu'eux autres aussi prient pour moi. Je veux ensemble qu'on prie pour l'Église. Je veux ensemble qu'on prie pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Seigneur, c'est ce qu'on veut. Alors, je veux souligner l'histoire d'un homme qui s'appelle Étienne. Étienne était un de ceux qui avait été choisi parmi ceux qui devaient servir aux tables, hein, parce que on avait besoin de quelqu'un pour servir pour les veuves et les apôtres, eux autres faisaient cette tâche-là. Mais vu que il y avait beaucoup de travail, puis que la parole de Dieu était délaissée, alors c'est là qu'ils ont dit choisissez 7 hommes parmi nous, parmi vous, prenez-en 7, puis qu'ils rendent un bon témoignage. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et qu'ils nous chargeront de cet emploi. Et parmi ceux-là, bien entendu, ils ont élu en premier lieu Étienne. Étienne. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est le seul qu'on dit ça. Les autres, on veut se dire leur nom. Alors, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Puis le nombre des disciples augmentait de plus en plus à Jérusalem. Puis une grande foule de sacrificateurs même obéissait à la foi. Mais par contre, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais par contre, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'Esprit Saint par lequel il parlait. Parce qu'il y avait des gens, effectivement, de différents lieux, qui s'opposaient à ce qu'il disait. Alors, ces hommes-là, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas venir à bout, de venir à bout de la sagesse que l'Esprit lui donnait, alors ils ont décidé de prendre des hommes et de l'accuser de choses fausses. Alors, ils ont ému le peuple, ils ont ému les anciens et les scribes, et puis là, ils se sont jetés sur lui, puis ils l'ont amené au Sanhédrin. Ça, c'était le lieu où on jugeait tous les gens, où ils s'assemblaient tous les Juifs pour les conseils, etc. Alors, les faux témoins qui ont été produits disaient, « Ah, il ne cesse que de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi. » Même nous, on l'a entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et regardez sa vie, comment elle est terminée ici. Alors, en entendant, là, c'est Étienne qui parle, et justement le Sanhédrin qui était là, qui disait, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinchaient des dents contre lui, Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul ou l'apôtre Paul. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Maudis-le, Seigneur !» Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux aussi, cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous aimeriez pas ça, finir votre vie, de dire, vous avez combattu le bon combat, vous avez achevé la course, vous avez gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juste, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous aimeriez pas bien finir vos jours? Alors, pour bien finir nos jours, il faut bien les commencer aussi. Alors, commencez-les avec le Seigneur. Merci.